OK, si vous voulez me suivre, on va aller dans Genèse chapitre 2, versets 1 à 7. Ainsi furent achevés les cieux et la terre et toute leur armée. Dieu acheva au septième jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au septième jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le septième jour, et il le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Voici les origines des cieux et de la terre quand ils furent créés. Lorsque l'Éternel Dieu fit une terre et des cieux, aucun arbuste des champs n'était encore sur la terre, et aucune herbe des champs ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre. Il n'y avait point d'homme pour cultiver le sol. Mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Alors, j'ai intitulé la leçon d'aujourd'hui, Jéhovah Elohim, bienfaiteur, pourvoyeur et créateur. Alors, on voit l'aspect de Jéhovah Elohim, le bienfaiteur, dans les versets 1 à 3. Excusez. Jéhovah Elohim, le pourvoyeur, dans les versets 4 à 6. Et Jéhovah Elohim, le verset 7, Jéhovah Elohim, le créateur. Donc, dans notre dernière leçon, on avait regardé le côté Jéhovah Elohim, bienfaiteur, et aussi le côté Jéhovah Elohim, pourvoyeur. On va reviser rapidement tout cela de manière à arriver à notre troisième point pour terminer la leçon d'aujourd'hui. On avait mentionné qu'il y avait, au début du chapitre 2, trois observations qu'on se devait de faire si on devait mieux apprécier le chapitre 2. La première, c'est que les trois premiers chapitres de la Genèse ont été faits pour nous faire connaître comment le monde et tout ce qu'il contient fut créé, comment arriva la chute d'Adam et d'Ève, et comment le péché fut introduit dans le monde avec ses conséquences pour toute l'humanité. On sait qu'il y a la mort dans ces trois aspects, physique, spirituel et éternel. Alors, la mort physique, on le sait, tous les hommes finissent par mourir, et c'est une conséquence du péché d'Adam et d'Ève. On a la mort spirituelle, on dit que tous les hommes qui viennent au monde sont morts spirituellement, donc aux yeux de Dieu, il n'y a pas de communication qui passe tant que la régénération n'a pas fait son œuvre. Et on a la mort éternelle, que si l'homme meurt dans son état où il n'est pas encore réconcilié avec Dieu, ben il va passer son éternité dans l'enfer. Alors, on avait vu que le livre de la Genèse, et plus particulièrement les trois premiers chapitres, ont pour but de nous initier au problème et aussi de nous initier à la solution de Dieu pour régler le problème qui est introduit par Adam dans le monde. Donc, nous introduire la glorieuse personne du Messie. Les trois premiers ont pour but de nous montrer comment l'humain est arrivé et comment il a chuté et comment Dieu a fait la prophétie que dans Genèse 3:15, qu'il viendrait un Messie pour réparer la bêtise d'Adam. Donc, dès le verset 15 du chapitre 3, on a la promesse du Rédempteur, donc qui est le second Adam. C'est très important de saisir ces deux aspects-là de la comparaison que Dieu veut qu'on comprenne entre le premier Adam, qui est la cause de notre problème, et le deuxième, qui est la cause de notre solution. Alors, et on l'appelle le premier et le second Adam. Alors, on appelle Christ le second Adam. Alors, on se doit d'interpréter les Écritures à la lumière de ce verset-là. Excusez-moi, je m'attends, je ne sais pas ce que j'ai, mais... Alors, dans 1 Corinthiens, chapitre 15, versets 21-22, ça nous dit, « Car puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts, et comme tous meurent en Adam, de même tous aussi revivront en Christ. » Alors, ceux qui sont morts, les êtres humains meurent à cause de la faute d'Adam, physiquement, Et à cause du péché d'Adam, naissent automatiquement comme pécheurs, donc morts spirituellement. Et s'ils décèdent comme ça, mais la solution vient tous. Alors, le problème est tout venu à cause du premier Adam. La solution est arrivée à cause du deuxième Adam. La deuxième observation qu'on se doit de faire sur le chapitre 2, c'est qu'il y a beaucoup de théologiens libéraux qui ont pris le chapitre 2 et qui ont comparé ça avec le chapitre 1, qui ont dit que c'est deux auteurs différents qui ont fait ça, on parle de choses différentes, et ils ont amené toute une série de bêtises. Alors, il faut savoir que ces deux chapitres-là, 1 et 2, ce n'est pas deux récits différents. C'est un récit qui parle de deux choses dans une phase différente. Alors, le chapitre 1 nous parle de la création dans une perspective générale et chronologique. Jour 1, jour 2, jour 3, jour 4, jour 5, jour 6. Tandis que le chapitre 2 parle de la création dans une perspective spécifique et thématique. Vous avez donné l'expression que l'auteur utilise, avait amené. Chapitre 1, Floodlight Account. Floodlight, ça veut dire un éclairage très général sur l'ensemble de la situation. Et le chapitre 2, il l'appelait plus Spotlight Account. Donc, c'est vraiment un éclairage vraiment plus spécifique. Il va, autrement dit, nous a donné the big picture, comme on dit en anglais, la grande image dans le chapitre 1. Dans le chapitre 2, on va développer qu'est-ce qu'il nous a dit qui est arrivé dans le chapitre 1, mais de façon plus spécifique. C'est important de comprendre ça parce que si vous lisez certains commentateurs qu'on appelle les modernistes ou les libéraux, ils vont vous amener toutes sortes de théories qui sont complètement folles pour interpréter les chapitres 1 et 2 de la Genèse. Alors, ça, c'est la deuxième observation. C'est important de le savoir. Et la troisième, c'était de se rendre compte que dans le chapitre 1, on n'utilise pas le même mot pour parler de Dieu. Quand on dit « Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut », on utilise « Elohim ». Elohim, c'est le mot utilisé pour le nom de Dieu, mot pluriel, donc qui implique la Trinité. Donc, dans le chapitre 1, c'est la création par la Trinité. Mais c'est important de réaliser que dans le chapitre 2, au verset 4, on commence à utiliser l'expression « l'éternel Dieu ». Donc, il y a un ajout, et c'est important parce que si vous allez dans l'hébreu, on dit que toute écriture est inspirée de Dieu et utile. Alors, quelque part, si le Seigneur, l'Esprit de Dieu, change le nom qu'il utilise pour faire quelque chose, chapitre 1, il utilise Elohim, et dans le chapitre 2, il utilise Jéhovah Elohim. Jéhovah, dans les Écritures, c'est souvent une expression pour démontrer que Dieu est en relation avec son peuple. Voyez-vous, au début, c'était Dieu le Créateur. L'homme n'est pas là, puis il n'en parle pas. C'est juste dans le but de préparer, comme on pourrait dire, l'arrière-scène, montrer la scène sur laquelle les événements vont arriver. Mais dans le chapitre 2, pourquoi il utilise cette expression-là, Jéhovah Elohim? Voyez-vous, c'est important, je vais vous dire pourquoi. L'expression Jéhovah Elohim est utilisée plus de 20 fois dans les chapitres 2 et 3 de la Genèse, alors qu'il n'est utilisé que 16 fois dans tout l'ensemble de l'Ancien Testament. Voyez-vous, quand que Dieu prend un nom qu'il s'attribue à lui-même pour faire quelque chose et qu'il l'utilise 20 fois dans deux chapitres, alors que dans tout l'Ancien Testament, il l'utilise seulement 16 fois, ça démontre qu'il veut démontrer, il veut montrer quelque chose d'important considérant ce qu'il va faire dans le chapitre 2. C'est Dieu qui rentre, Jéhovah, c'est le Dieu de l'Alliance, le Dieu qui rentre en relation avec son peuple. Pourquoi il l'utilise? C'est parce que, justement, il s'apprête à introduire le personnage avec lequel il va avoir une relation. Mais, bien sûr, quand on lit ça, on lit dans le chapitre 1, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Et là, dans le chapitre 2, ça dit l'Éternel Dieu. Souvent, on n'allume même pas pourquoi il met l'Éternel Dieu et on ne se pose pas la question. Mais quand on se pose la question, puis qu'on va voir dans des commentateurs les plus savants que nous, ben, ils nous amènent des fois des observations qui sont éclairantes sur pourquoi le Seigneur fait telle chose, pourquoi il utilise telle expression, alors que dans le chapitre 1, il utilisait un autre nom pour parler de lui-même. Alors ça, c'est important. Alors on avait vu Jéhovah le bienfaiteur, dans le chapitre 2, verset 1 à 3, ça dit « Ainsi furent achevés les cieux et la terre. » Dans le chapitre 1, ils avaient tout décrit qu'est-ce qui arrivait le jour 1, jour 2, jour 3. Et dans le chapitre 2, ça dit « Ainsi furent achevés. » Donc, c'est une œuvre qui était achevée. Et toute leur armée, on sait que dans les Écritures, le mot « armée » ne veut pas dire la même chose. C'est un mot qui dans les Écritures, quand on parle de l'armée, du Seigneur, on ne veut pas dire la même chose que quand nous, on utilise l'armée. Si je parle, par exemple, je vous dis, l'armée américaine ou l'armée française, on parle d'hommes, on parle d'armes, on parle de généraux, on parle d'officiers, on parle... Et quand on parle de l'armée du Seigneur, c'est tout ce qui existe qui est à son service. Alors, les planètes sont à son service. Tout est à ton service. Le soleil, la lune, les étoiles, la végétation, tout. Alors, disons les sauterelles. Le Seigneur, je ne sais pas si vous vous souvenez, des fois dans l'Ancien Testament, le Seigneur il disait, bon, le peuple avait désobéi, il pouvait permettre que les récoltes de son peuple soient complètement mangées par... Mais qui emmenait ces sauterelles-là? Le Seigneur. Quand on parle de l'Éternel, des armées et de toute l'armée du Seigneur, autrement dit, le Seigneur il utilise toute sa création pour entrer en relation avec l'homme. Alors, on parle ici achever non seulement les cieux et la terre, mais toute leur armée. Tout ce qu'il y a dessus, tout ce qu'il y a dans l'univers, le Seigneur peut commander. Je ne sais pas si vous vous souvenez, dans Josué, à un moment donné, le peuple, Josué est en train de faire la guerre et le soir est en train d'arriver et il n'avait pas fait dit d'exterminer le peuple que le Seigneur voulait exterminer. Il a permis que le soleil demeure plus qu'une journée, deux jours. Alors, qui que vous pensez qui était capable de contrôler le soleil et dire « Hey, normalement tu te couches, mais là tu ne te couches pas parce que je ne veux pas que tu te couches. » Imaginez-vous, là. Alors, le Seigneur, quand on parle de l'armée, capable d'utiliser, de contrôler tout ce qui existe en termes de créatures. Alors, ça dit que ça a été achevé, toute son armée. Et Dieu acheva au septième jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au septième jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Chose importante, c'est que dès le début du chapitre 2, on apprend un principe qui est important. Celui du septième jour. Le septième jour, dans les Écritures, c'est le sabbat. Le Seigneur veut qu'il y ait un jour, à tous les sept jours, qui lui soit pleinement consacré. Et il dit ici, au verset 3, qu'il l'a sanctifié, et parce que lui, dans ce septième jour-là, il s'est reposé de toute son œuvre qu'il avait faite en la créant. C'est-tu parce que le Seigneur avait fait tout ça, et là, il commençait à être fatigué, il dit, on m'a reposé. Ça ne marche pas de même. Le Seigneur, c'est un symbole qu'il utilise pour dire que le septième jour, il n'a pas travaillé, pas parce qu'il était fatigué, pour nous donner l'exemple qu'un jour sur sept lui soit consacré. Alors, ici on voit dans les versets 1 que le bienfaiteur, dans le fait qu'il nous donne une terre et une création qui est achevée. C'est pas, il n'a pas commencé quelque chose, mais il l'a terminé. Il a terminé, il s'est rendu jusqu'au bout. Ce qui est important de voir le bienfaiteur, quand on lit par exemple dans la Confession de foi baptiste de Londres de 1689, alors ça nous explique un petit peu cette même idée-là que le Seigneur est le bienfaiteur. En passant, là, si vous n'avez une copie chez vous, la Confession de foi 1689, lisez-la souvent. Méditez-la. Allez voir les versets. Il y a toujours des petits numéros à côté de différentes phrases. Dans un paragraphe, par exemple, vous allez lire le paragraphe et il va dire une phrase et à côté de la phrase, il y a un petit numéro. Allez voir les versets. C'est très important parce que plus on le fait, plus on sait ce en quoi on croit. Et quand on parle de que Dieu nous a donné une œuvre achevée, dans le chapitre 5 au paragraphe 1 de cette même confession de foi, on lit « Dieu, le bon créateur de toutes choses, dans sa puissance et sa sagesse infinie, soutient, dirige, dispose et gouverne toutes les créatures et toutes les choses des plus grandes ou plus petites par sa très sage et très sainte providence. » Est-ce qu'on comprend tout ce qu'on vient de dire? Alors, ça dit que dans sa puissance et sa sagesse, il soutient, il dirige, il dispose et il gouverne. Alors, c'est pour ça que quand on parle de son armée, toutes ces choses-là qui existent, il les gouverne. Alors, gouverner, ça veut dire qu'il en est le maître et qu'il exerce sa volonté sur ces choses-là. Et là, ça nous dit aux fins pour lesquelles ils ont été créés. Peu importe ce que le Seigneur a fait, il y a une raison à cela et il y a un dessein. Alors, il dit, il le fait selon sa prescience infaillible et le conseil libre et immuable de sa propre volonté, à la louange de sa sagesse, de sa puissance, de sa justice, de son infinie bonté et de sa miséricorde glorieuse. Alors, on voit dès le début du chapitre 2 que le Seigneur parle du septième jour comme étant le jour de repos qu'il voulait donner comme modèle pour que son peuple fasse la même chose. Là, ils vont dire, le sabbat, c'est arrivé uniquement au moment où le Seigneur a donné le décalogue. C'est où le décalogue dans les Écritures? Exode, chapitre 20. Exode, chapitre 20, ça veut dire que oui, le Seigneur a dit un jour sur sept que tu dois me le consacrer. Mais est-ce qu'on peut démontrer par les Écritures que le peuple de Dieu observait le sabbat avant que le décalogue soit donné? Voyez-vous mon point? Autrement dit, les 10 commandements de Dieu n'ont pas encore été donnés, et déjà, on peut affirmer par des versets des Écritures que le peuple de Dieu observait le sabbat. Alors, si vous allez dans Exode 16, c'est avant que le décalogue soit donné. Et dans Exode 16, on voit que Dieu... Déjà, on mentionne que le peuple de Dieu observait le sabbat. Mais si on va dans le décalogue, dans Exode 20, c'est important pour nous de voir que le fait qu'on est rassemblés aujourd'hui, c'est quelque chose qui date depuis très longtemps, mais qui nous a été donné, bien entendu, comme un commandement. Le décalogue ou les 10 commandements dans Exode 20, c'est ce que Dieu veut, c'est sa loi morale qu'on appelle. La loi morale, elle va continuer à exercer sa domination sur tous les hommes de toutes les époques, de tous les temps. Et qu'est-ce qu'il nous dit dans Exode 20, verset 8 à 11? « Souviens-toi du jour du repos pour le sanctifier. » Le dimanche, pour un chrétien, il se doit d'être que ça soit une journée à part. Qu'est-ce que ça veut dire, sanctifier une journée? Ça veut dire la mettre à part. La mettre à part pour quoi? La mettre à part pour l'adoration de Dieu. Si un chrétien ne va pas à son culte un dimanche sans raison valable, il pèche contre un commandement de Dieu. Il faut prendre conscience de ça, parce qu'il semble qu'il y a beaucoup de personnes qui ont oublié ça un petit peu aujourd'hui. Les gens pensent que le dimanche, on fait ce qu'on veut, on voit ce qu'on veut. Mais ce n'est pas ça que les Écritures nous enseignent. Regardez, dans le verset 9, ça dit « Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage, mais le septième jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage. » Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire que le dimanche, tu ne travailles pas. À moins que tu aies une raison. « Ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui est dans tes portes. » Puis voyez-vous la preuve que ça a une relation avec le Genèse 1, chapitre 2, verset 3, ça dit « Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer et tout ce qui y est contenu, et il s'est reposé le septième jour. » C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et l'a sanctifié. Alors, le dimanche, ce n'est pas un jour ordinaire. Ça a été remplacé du 7e au 1er. Donc, dans tout l'Ancien Testament, c'était le samedi par les Juifs. Maintenant, avec le Nouveau Testament, ça a été transféré au premier jour de la semaine. Mais le commandement d'observer et de sanctifier, de mettre à part son commandement, n'a jamais été enlevé. Comme je vous avais mentionné le dernier coup, j'avais bien aimé un théologien qui avait dit « It's the market day of the soul ». Qu'est-ce qu'il voulait dire par ça? C'est le jour du marché de l'âme. Qu'est-ce qu'on fait quand on va au marché? On va s'approvisionner pour faire quoi? Pour entretenir notre corps. Moi, quand je vais à l'épicerie, on achète toutes sortes de choses, mais c'est pour entretenir notre corps. Mais si on veut entretenir notre âme, c'est où qu'on va chercher nos victoires? C'est à l'église le dimanche. Alors, c'est le jour du marché de l'âme. On l'oublie-tu d'aller faire notre commande pour entretenir notre corps? Non, on ne l'oublie pas. C'est drôle, parfois, on est capable d'oublier celui de l'âme, qui est beaucoup plus important. Et ça aussi, c'est important, quand je vous disais de lire le 1689, c'est déjà dans Genèse 2, le verset 3, que Dieu a institué le jour du repos. Et quand quelqu'un manque sans raison, il faut se rendre compte de ce qu'on fait. On désobéit au Seigneur lui-même. Si on prend les 10 commandements, les 4 premiers, c'est nos devoirs envers qui? Envers Dieu. Donc, vu que c'est le 4e commandement, c'est un devoir que tu as envers qui? Envers Dieu. Si tu n'accomplis pas ce que Dieu te demande de faire, qu'est-ce que tu fais? Tu pêches. Pas plus compliqué que ça, c'est pas compliqué. Et les 6 autres, c'est les devoirs qu'on a envers notre prochain, envers les autres hommes. Et à quelque part, on le sait, on manque beaucoup. Mais un manquement à nos devoirs envers Dieu est plus grave qu'un manquement à nos devoirs envers les hommes. Vous d'accord avec ça? Bien, si Dieu me commande quelque chose, puis je n'obéis pas, c'est bien plus grave que si un homme me commande quelque chose, puis je n'obéis pas. Quoique ce n'est pas correct non plus envers un homme. Si l'homme a un certain pouvoir sur moi, disons que je suis un employé, mon boss vient me voir et me dit « fais telle affaire, je ne le fais pas », ben je risque d'avoir des problèmes. Mais quand on désobéit à Dieu, c'est beaucoup plus grave. Pourquoi je reviens là-dessus? C'est parce que c'est important. On est rendu à une époque où, à cause d'une théologie qui est faussée, on fait du dimanche aujourd'hui n'importe quoi. Mais regardez bien, si on dit qu'on croit à la confession de foi 1689, il faut la lire. Avant de dire qu'on est d'accord avec, il faut la lire. Comprendre ce qu'elle dit. Et est-ce que je m'ajuste à ce qu'elle dit? Parce que croire, c'est pas juste de regarder un texte et dire « Ah, pas pire, le gars qui a écrit ça est brillant. » C'est de lire, de comprendre ce que ça veut dire et théologiquement adapter notre comportement au contenu. N'est-ce pas? Maintenant, si on va dans le chapitre 22 de la Confession de foi, 1689, au paragraphe 7 et 8. Je vous les lis parce que, pourquoi je veux remettre ça en... Parce qu'on est en train de lire le verset 3 du chapitre 2 de Genèse qui nous parle de l'institution par le Seigneur lui-même d'un jour qui doit lui être consacré. Voyez-vous, verset 7 se lit comme suit. « Comme c'est une loi de la nature, qu'en général, une certaine mesure du temps, soit par ordonnance de Dieu, mise à part pour lui rendre un culte. » C'est Dieu qui institue ça. Une journée sur 7, il doit lui être consacré pour lui rendre un culte. Il a aussi spécialement désigné, par un commandement positif, moral et perpétuel de sa parole, à quoi qu'il parle, de quoi il parle ici, là? Il parle du 4e commandement de Exode, du décalogue, parce qu'il dit « par un commandement positif, moral et perpétuel de la parole ». Il a commandé ça. Et regardez bien ce que ça dit aussi. « Liant tous les hommes de tous les temps. » Est-ce qu'un païen qui manque à son dimanche, disons dans Rouen, est-ce qu'à cause du fait qu'il est un païen, il n'est pas coupable? Non. Il est coupable parce que ça le lie lui aussi. Liant tous les hommes de tous les temps, un jour sur sept, comme sabbat qui doit lui être consacré. Un sabbat, ça veut dire tu arrêtes de travailler, tu reposes, et cette journée-là est censée de la consacrer totalement et uniquement au Seigneur. Est-ce que vous croyez qu'il commence à y avoir beaucoup de manquements à ce niveau-là de nos jours? Énormément. On a besoin de revenir à la compréhension de ça. Ça dit, depuis le commencement du monde jusqu'à la résurrection de Christ, on comprend, l'Ancien Testament, jusqu'à ce que Christ soit réservé, soit ressuscité, ce fut le dernier jour de la semaine. Autrement dit, le sabbat, à l'Ancien Testament, c'était le samedi. Les Juifs font encore le sabbat le samedi. Et à partir de la résurrection de Christ, il a été changé au premier jour de la semaine, appelé jour du Seigneur. On n'appelle pas ça « jour du Seigneur » pour rien, parce que c'est son jour. On est supposé de se concentrer et de lui amener notre adoration, notre action de grâce. Et ça dit « et continuera jusqu'à la fin du monde » comme sabbat chrétien, puisque l'observance du dernier jour de la semaine a été abolie. Combien d'entre nous se souvient de ce passage-là de... C'est pour ça que je dis qu'on devrait la lire souvent, notre confession de foi. Qu'est-ce que ça dit, une confession de foi? On est en train de dire, dans ce document-là, tout ce que je crois est exprimé là-dedans, de façon sage, de façon bien écrite, de façon vérifiée par une multitude de théologiens et de pasteurs. Et nous, on dit, oui, même si ça a été écrit en 1689, c'est encore ce que je crois aujourd'hui. Et personnellement, je crois que la 1689 est une excellente confession de foi qui exprime, peut-être qu'elle n'est pas parfaite parce que ce n'est pas les Écritures, mais il reste que c'est quand même, une compréhension des Écritures qui a été faite par les gens des Baptistes du 17e siècle et qui se sont réunis et qui ont dit « voici notre compréhension des Écritures » sur plein de sujets. Mais on a une confession de foi, souvent ce qu'on fait avec, on l'amène à un tiroir, on ferme le tiroir, puis la poussière s'accumule dessus. Une confession de foi, c'est faite pour être lue, c'est faite pour être étudiée, c'est faite pour être compris, et c'est faite pour être obéie. Et le chapitre 8, il dit, là il nous dit comment on se doit de faire le sabbat chrétien le dimanche. Le sabbat est consacré au Seigneur. Lorsque des hommes, ayant auparavant préparé leur cœur et mis en ordre leurs affaires ordinaires, qu'est-ce qu'il est en train de nous dire? Que un sabbat est vraiment consacré au Seigneur. Lorsqu'on a préparé nos cœurs, ça je pense qu'on l'oublie aussi, on serait supposé dans la semaine de demander au Seigneur dimanche, c'est mon jour où je vais faire mon marché. Prépare mon cœur. Prépare le cœur de celui qui va amener le message. Pour que je retire quelque chose pour m'améliorer, pour devenir meilleur. Et ça dit ensuite, non seulement observent tout le jour un saint repos de leurs propres œuvres. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu ne travailles pas le jour du Seigneur, à moins que ça soit ce qu'on appelle une œuvre de miséricorde. Les pompiers n'arrêteront pas de travailler. Les policiers n'arrêteront pas de travailler. Les personnes qui travaillent dans les hôpitaux n'arrêteront pas de travailler. Les médecins, les infirmières, les préposés aux soins. Mais à part de ça, normalement, le dimanche, ta place est à l'église. Si tu es chrétien. Et même si tu n'es pas chrétien, ça sera censé être ta place, même si tu n'y es pas. C'est-à-dire, observe tout le jour un saint repos de leurs propres œuvres, paroles et pensées en rapport à leurs travaux et récréations profanes. Qu'est-ce que c'est en train de nous dire? Le dimanche, arrête de penser à tes troubles de toutes sortes. Parce que ça dit, observe tout le jour un saint repos de leurs propres œuvres, paroles et pensées en rapport à leurs travaux et récréations profanes. Autrement dit, tes hobbies, tes affaires qui t'intéressent, Ce n'est pas le moment de faire ça le dimanche. Le dimanche est un jour qu'on se devrait de donner tout notre temps, toute notre attention pour le Seigneur. Est-ce que vous croyez qu'il y a des manquements aujourd'hui de nos jours sur le jour du repos? Énormément. On oublie ce qui est marqué dans les Écritures, on oublie ce qui est marqué dans notre confession de foi et on n'agit pas conséquemment. Donc, on n'est pas correct. Et ça dit, mais occupent tout leur temps. Je mesure, on recommande. Mais occupent tout leur temps aux exercices publics, ce qu'on fait ce matin, c'est un exercice public, et privé, chez nous, du culte, et à des devoirs d'obligation et de miséricorde. Voyez-vous, juste ces deux paragraphes-là de notre confession de foi, s'ils étaient compris, adaptés, à notre, puis on adapterait notre comportement, déjà, il y a beaucoup de péchés qui s'éviteraient. Il y a de valeur de voir que même dans les églises conservatrices, comme nous, on considère qu'on est dans une église conservatrice, il y a tellement de manquements à ce niveau-là. Ça vient d'où? Il pourrait y avoir plusieurs raisons, mais ça vient très certainement d'une fausse interprétation en disant on n'est plus sous la loi, on est sous la grâce, puis qu'on peut faire n'importe quoi le jour du sabbat ou le jour du dimanche. En tout cas, ça sera toute une autre histoire. On ne rentrera pas là-dedans ce matin. C'est une longue histoire. Alors, le Seigneur, il nous a donné la création, dès le début de la création, il nous a parlé du repos. Et mais bien entendu, ce repos-là, ça fait référence au repos que le Seigneur va nous donner, qui est un repos éternel. Il nous a donné un repos physique et un repos aussi spirituel, parce qu'on est déjà en repos, parce qu'on ne cherche pas à gagner la faveur de Dieu par nos comportements, par nos œuvres, parce qu'on est déjà en repos ce côté-là, mais ça pointe vers le repos éternel. Et la preuve de ça, c'est que dans Hébreux 4, versets 9 à 10, que ça dit « Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres. » Autrement dit, on ne gagne pas la faveur de Dieu par nos propres œuvres. Autrement dit, comment j'essaierais d'obéir au commandement de Dieu à tour de bras, que je ferais tous mes efforts, tous les jours, sans arrêt, pour obéir à Dieu, au commandement de Dieu, je serais un monumental échec. Parce que les Écritures nous enseignent que c'est Christ qui a accompli la loi à ma place. Et c'est Christ qui a subi le châtiment que j'aurais dû subir à ma place encore. Et dans le verset 11 de Hébreux 4, ça se dit « Efforçons-nous d'entrer dans ce repos afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. » On avait vu que le deuxième point, donc le premier point, c'était vraiment Jéhovah le bienfaiteur. On avait vu le deuxième point, Jéhovah le pourvoyeur. Parce que, qu'est-ce qu'il a pourvu dans le verset 4 à 6? Il dit, voici les origines des cieux et de la terre quand ils furent créés, lorsque l'Éternel fit une terre et des cieux. Aucun arbuste n'était encore sur la terre et aucune herbe des champs ne germait encore, car l'Éternel Dieu n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, il n'y avait point d'homme pour cultiver la terre, mais une vapeur s'éleva de la terre et arrosa toute la surface du sol. Donc ici, on nous parle de Jéhovah Elohim, le pourvoyeur. Il commençait déjà à pourvoir aux besoins que les hommes auraient. Pourquoi il faisait pleuvoir? Il n'y avait personne qui s'occupait de la terre, mais déjà il était en train de préparer l'arrivée de l'homme et les besoins qu'il aurait. Alors, Jéhovah Elohim, donc le pourvoyeur, est clairement identifié dans son nom. Jéhovah Elohim. Donc, le Dieu trinitaire qui entre en relation avec son peuple. Et ici, il nous donne... Dieu agit dans les versets 5 et 6. Il prépare pour l'homme un lieu d'habitation et aussi les nécessités qu'il va avoir pour à la fois sa vie et son travail. Dieu donne à l'homme des plantes qui s'auto-reproduisent par la germination et la pluie qui entretient la vie. Dieu contrôle parfaitement ces choses-là. Dans Amos, chapitre 4, verset 7, c'est très intéressant de lire ça. Le Seigneur dit, « Et moi, je vous ai envoyé la famine dans toutes vos villes. le manque de pain dans toutes vos demeures. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. Puis dans le verset 7, il dit, « Et moi, je vous ai refusé la pluie. Lorsqu'il y avait encore 3 mois jusqu'à la moisson, j'ai fait pleuvoir sur une ville et je n'ai pas fait pleuvoir sur une autre ville. Un champ reçoit la pluie et un autre qui ne l'a pas reçu s'est desséché. » Est-ce que vous avez déjà observé ce phénomène-là? Que des fois, avez-vous déjà vu où est-ce que la pluie, on dirait que c'est comme un rideau. Il y a un endroit qui ne pleut pas, puis tu regardes un petit peu plus loin, puis tu vois le début de la pluie. Et ici, le Seigneur est en train de dire qu'il est capable de contrôler la pluie de telle façon qu'il est capable d'envoyer de la pluie à un champ, puis il est capable de la refuser à l'autre. Peut-être ça a l'air d'amener une journée, là. Il dit, « Je vous ai refusé la pluie. » Pourquoi? Parce que son peuple était dans la désobéissance et le Seigneur contrôlait la pluie de manière à amener un jugement sur eux. Alors, on peut dire qu'on est rendu un peu comme Dieu préparait la pluie. Souvent dans les Écritures, on utilise l'image de la rosée pour parler de la grâce de Dieu. Je me souviens quand on chante un chant, des fois, fraîche rosée, descendez sur nous tous. De quoi on parle? On parle que Dieu envoie des grâces sur nous qui ont à peu près l'équivalence de la rosée. Une rosée, là, si Dieu ne l'envoyait pas, là, je peux vous dire une chose, nos récoltes feraient dur à peu près. Là. C'est Dieu qui contrôle les rosées et c'est lui qui contrôle aussi l'envoi des rosées spirituelles. Là, on était rendu au verset 7, donc le troisième aspect. Donc, on a fait notre vision. Le troisième aspect de Jéhovah Elohim, le Créateur. Donc, le verset 7 du chapitre 2 se lit comme suit. « L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. » Qu'est-ce qu'on apprend dans ce verset-là? C'est que l'homme est fait de poussière, son corps. Notre corps, apparemment, qu'il y a des, si on prend les poussières, disons quelqu'un qui se fait incinérer, brûler, et qu'on analyse la poussière qui reste, parce qu'il n'y en a pas beaucoup hein, dans une urne, tout notre corps devient, toute l'eau est enlevée, et là, ce qui reste, là, c'est des éléments que l'on trouve dans la poussière de la terre. Si vous faites un élément, vous faites une analyse des éléments contenus dans le sol, et si vous faites une analyse des éléments contenus dans la poussière de l'homme mort, c'est la même chose. Pourquoi? Parce que c'est ça que le Seigneur nous dit. Parce qu'il dit, l'homme, Dieu, forma l'homme de la poussière de la terre. Donc, il veut nous rappeler que notre corps est fait de poussière. Et qu'il va retourner dans la poussière. L'homme est fait de poussière. Alors, ce fait nous rappelle nos humbles origines et notre fragilité essentielle. Notre corps est composé des mêmes éléments chimiques que ceux de la poussière de la terre. On les connaît. Carbone, hydrogène, oxygène, azote, chaud, fer, soufre et phosphore. Prenez cette poussière-là, vous l'analysez, vous allez tout avoir ça dedans. Prenez la poussière de la terre, vous l'analysez, vous allez tout avoir ça dedans. Ça nous rappelle nos origines. Dieu a pris de la poussière de la terre pour créer l'homme à partir de cela. Alors, cette affirmation nous remémore également la destinée finale de nos corps. Ecclésiaste, chapitre 3, versets 18 à 20. J'ai dit en mon cœur au sujet des fils de l'homme que Dieu les éprouverait et qu'eux-mêmes verraient qu'ils ne sont que des bêtes. Car le sort des fils de l'homme et celui de la bête sont pour eux un même sort. Comme meurt l'un, ainsi meurt l'autre. Ils ont tous un même souffle et la supériorité de l'homme sur la bête est nulle, car tout est vanité. Psaume 103, versets 13 et 14. Comme un père a compassion de ses enfants, l'Éternel a compassion de ceux qui le craignent. Car il sait de quoi nous sommes formés. Il se souvient que nous ne sommes que poussière. Et drôle de se faire dire ça par le Seigneur. Hein? On est juste la poussière. Dans la version Job, verset Job, chapitre 33, verset 6, dans la version d'Harvey, ça dit « Voici, je suis comme toi, quant à Dieu, je suis fait d'argile, moi aussi. » Alors, il fait référence, l'argile, c'est de la terre. Il reconnaît qu'il est fait d'argile. Job reconnaît qu'il est fait d'argile, donc il est fait des poussières de la terre. Et Genèse 3, 19 vient nous rappeler un fait très important. Il nous dit, « C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. » Connaissez-vous du monde qui sont morts? Ils ont été enterrés ou sont incinérés, mais ils sont tous rendus de la poussière, ou s'ils ne sont pas, sont en processus de le devenir. Ésaïe 64, verset 8, « Cependant, ô Éternel, tu es notre Père, nous sommes l'argile, et c'est toi qui nous as formés, nous sommes tous l'ouvrage de tes mains. » Donc, ici, on apprend qu'on est formé par la main de Dieu. Nous sommes d'origine divine, et c'est ce qui donne à l'homme sa dignité. Job 32, verset 8, « Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. » Autrement dit, la poussière, pour que cette poussière-là prenne une vie et qu'elle devienne un être humain, qu'est-ce que ça dit dans le verset? « Dieu, l'éternel Dieu, donc Jéhovah Elohim, forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines. » Donc, l'âme de l'homme, c'est le souffle divin. Un souffle de vie, donc le souffle de vie, et c'est ça qui permet que l'homme devienne un être vivant. Donc, on est de la poussière avec un souffle de vie divin dedans. Sinon, on n'existera pas. Dans le psaume 139, les versets 14 et 15, ça dit « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. » Mon corps n'était point caché devant toi lorsque j'ai été fait dans un lieu secret, tissé dans les profondeurs de la terre. Alors, le chrétien devrait être conscient de la dignité de son corps, et plus particulièrement, depuis qu'il est habité par le Saint-Esprit, qui peut comprendre vraiment le côté merveilleux de cela? On est de la poussière, on est habité. Quand on est chrétien, on est régénéré, donc habité par le Saint-Esprit de Dieu. Mais pour qu'on puisse apprécier ça, il faut vraiment commencer à réfléchir qui est Dieu avec, disons, en gros, là, ses 25 attributs qui nous habitent en nous. Pas sûr que beaucoup de monde, même d'entre les chrétiens les plus spirituels, qui prennent conscience de la richesse de cela, de la profondeur de ça. Pourtant, c'est ça qu'on est. Dieu nous dit qu'on est poussière, on a le souffle divin en nous, c'est ça qui nous a donné la vie, mais en plus, nous, on était morts spirituellement, donc il nous a redonné la vie, mais on est habité par le Saint-Esprit de Dieu. C'est quelque chose, une vérité qu'on pourrait méditer toute notre vie, je suis convaincu qu'on ne l'aura pas vidée, puis qu'on peut méditer toute l'éternité, puis je suis convaincu qu'on n'atteindra jamais le bout non plus, parce que Dieu est éternel et il est infini. Il habite en nous. C'est des réalités tellement profondes, ces choses-là, que... Alors, on se doit, à cause de cela, de faire très attention à nos corps. Ça aussi, on a oublié ça. Pourtant, les Écritures nous donnent de façon très claire. Dans 1 Corinthiens, le chapitre 6, les versets 18 à 20. On va à peine qu'on y aille, puis je voulais tourner. 1 Corinthiens, chapitre 6, les versets 18 à 20, pour nous rappeler une vérité très importante concernant la dignité de notre corps habité par le Saint-Esprit. Ça dit au verset 18, « Fuyez l'impudicité. » La première chose qu'il nous dit, c'est de fuir les péchés d'ordre sexuel. « Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché-là est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Et dans le verset 19, là, il nous rappelle cette vérité qu'on se devrait de méditer à longueur de journée et à longueur d'année. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Est-ce que la plupart des gens aujourd'hui, même chrétiens, se comportent comme étant pleinement conscients que son corps, c'est pas à lui, c'est au Seigneur? Parce qu'il t'a racheté, c'est ça que ça dit. Il dit, votre corps est le temple du Saint-Esprit. Donc, il faudrait comprendre qui est le Saint-Esprit. Le temple, ça veut dire quoi? L'habitation. C'est une habitation. On est l'habitation du Saint-Esprit avec la grandeur que Dieu est. On n'a pas d'idée. Et qui est en vous, et que vous avez reçu de Dieu, Dieu le Saint-Esprit, et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Pourquoi on se doit faire attention à notre corps? Bien sûr, on peut dire, ben oui, mais pour être en santé, puis pour être productif, être ci, être ça, ça c'est le côté humain. Côté divin, tu dois en prendre soin parce qu'il n'est pas à toi. Il est à Dieu. Ça nous impose une façon de s'occuper de notre corps que pas beaucoup de chrétiens. Ce verset-là, là, on pourrait l'étudier des années. Vraiment pour saisir qu'est-ce que ça implique au point de vue. Et dans le verset 20, il nous dit pourquoi on ne s'appartient pas. Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit. Voyez-vous, il ne nous dit pas que juste le corps appartient à Dieu. Il dit de glorifier Dieu dans notre corps et dans notre esprit, et ça termine en disant qui, les deux, appartiennent à Dieu. Alors, l'homme est animé du souffle divin, ça nous dit dans le verset 7. Alors, le fait que Dieu ait soufflé la vie dans les narines de l'homme démontre la supériorité de l'homme sur les animaux et les autres formes de vie. Les versions Darby, Martin et Osterwald vont traduire un petit peu le verset 7 par une expression qui est la suivante, et la même dans les trois versions. « Et l'homme devint une âme vivante. » De par son origine divine, l'homme a acquis l'immortalité. Donc, il passera son éternité soit avec son Créateur dans le ciel, ou soit dans l'enfer avec les damnés et les anges méchants. Alors, j'ai trouvé trois applications qu'on peut faire à partir de l'étude des sept premiers versets du deuxième chapitre de la Genèse. La première, rendons grâce à Dieu pour l'institution du sabbat. C'est un cadeau d'une valeur inestimable. Demandons au Seigneur de nous faire prendre conscience que le quatrième commandement de Dieu n'est pas une contrainte que Dieu a voulu nous imposer, mais une bénédiction qui s'inscrit dans le cœur de tout homme, notre besoin d'adorer et de louer et de se reposer. C'est une bénédiction énorme. Je me souviens d'avoir lu que durant la Révolution française, les Français ont voulu refaire le monde. Et on dit, à partir de maintenant, on n'a plus les semaines de séjour parce que ça, c'est une affaire de chrétiens. Nous, on va instituer une nouvelle façon de procéder. On va avoir une semaine de 10 jours. Ça n'a pas fonctionné. Ça a été un échec monumental. Pourquoi ça ne fonctionne pas 10 jours ou 6 jours? Parce que le cycle divin est de 7 jours. Le Seigneur nous a fait pour qu'on travaille 6 jours, qu'on se repose une journée. Dès que tu essaies de changer ça, ça ne marche pas. Ça a été essayé historiquement. Là, je vous parle de l'histoire des Français, mais ça a été essayé ailleurs aussi. Ça ne marche pas. Et les gens se posent la question, pourquoi? Bien, c'est parce que c'est Dieu qui a voulu ça comme ça. Alors, si tu essaies de déroger de l'institution divine, tu vas faire un gros, en québécois, on appelle ça un flop, Ça ne marchera pas. Socialement, tu ne peux pas imposer une chose comme ça, ça ne fonctionnera pas. Alors, le verset 3, chapitre 2, nous apprend une chose, un grand cadeau que le Seigneur nous a donné. Se reposer le septième jour. Adorer le Seigneur, rendre grâce au Seigneur le septième jour. Si on est ici aujourd'hui, là, toute la gang, là, c'est à cause qu'il nous a institué ça dès le début de la Genèse, qu'il l'a confirmé aussi, que la pratique a été faite par les gens de l'Ancien Testament, par les Juifs, avant le Décalogue, et qu'au Décalogue jusqu'à Christ, on l'a vu tantôt, c'était le samedi, depuis la résurrection jusqu'à aujourd'hui, c'est le dimanche, mais c'est quand même une obligation, mais qu'on ne devrait jamais considérer comme une obligation, on devrait considérer ça comme la plus grande bénédiction que le Seigneur nous donne de venir à notre culte le dimanche. C'est le marché de notre âme. Profitons-en, faisons une grosse commande. On a besoin des fois. Deuxième application, n'oublions jamais d'exprimer quotidiennement notre joie et notre gratitude envers le Seigneur qui pourvoit à tous nos besoins, qu'ils soient de nature temporelle ou spirituelle, donc notre habitation, les nécessités de la vie. Pas pour rien que le Seigneur dit, occupez-vous d'abord, recherchez d'abord les choses du royaume de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par ce quoi. De quoi il parle? Il dit que ta priorité de la vie, ça devrait toujours être rechercher le royaume de Dieu. Quelqu'un qui le dimanche est ailleurs qu'à son culte sans raison, il ne cherche pas le royaume de Dieu. Il cherche son plaisir, il cherche bien les choses, mais pas le royaume de Dieu. Et le Seigneur dit que si tu le mets en priorité dans ta vie, toujours faire passer le Seigneur number one, tout le temps. Inquiète-toi pas de ce qui va te manquer d'argent, que tu n'auras pas ce que tu as besoin, nourriture, vêtements, soins, n'importe quoi. C'est lui-même qui t'a fait la promesse. Rechercher d'abord, ça veut dire en priorité, le royaume des cieux et toutes ces choses, de quoi il parle? Vêtements, nourriture, habitation, n'importe quoi, name it, comme ils disent en anglais. Et tu vas l'avoir. Parce qu'il te le dit, ils vont être te donnés comme par-dessus. Comme par-dessus. Il va te donner non seulement la bénédiction que tu as recherché le Seigneur le jour qui t'a commandé de le faire, mais ces choses-là, il va te les donner. Tu n'as même pas besoin de les demander et courir après. Il va permettre que les circonstances de la vie te les amènent par elles-mêmes. C'est une grande bénédiction que notre Dieu soit un Dieu pourvoyeur. Notre job, comme chrétien, c'est pas compliqué. Obéissons à ce qu'il nous commande. Et le reste, on n'a même pas besoin de s'inquiéter. Il nous l'a promis. Dieu ne ment jamais. Combien de fois on va négliger le jour du Seigneur pour faire bien d'autres choses qu'on ne devrait pas être. On le déshonore. Non seulement on le déshonore, mais on est en train de lui dire, « Mais ce que je fais là, aujourd'hui, c'est bien plus important que de t'adorer. » Imaginez-vous ce qu'on dit. On ne le dit pas avec des mots, on le dit avec des gestes encore pire. Voyez-vous, dans 2 Pierre 1, verset 3, ça dit, « Comme sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. » Ça est en train de nous dire dans 2 Pierre 1 que le Seigneur nous a donné tout ce qui contribue à la vie, qu'elle soit de nature physique ou de nature spirituelle. Il nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. La piété, c'est être en relation avec Dieu. Il nous a donné tout ce qu'on a besoin. Mais il suffit de le saisir. Si quelqu'un le dimanche n'est pas à son culte pour une raison non valable, il est en train de dire à Dieu, « Ben moi, ce que je fais aujourd'hui, là, c'est bien plus important que de t'adorer. » Quelle folie! Le comble de la folie. C'est vraiment le comble de la folie quand on y pense. Quand on considère qui est Dieu, qu'est-ce qu'il a fait pour nous, et nous, sa façon de le récompenser, c'est que, bon, aujourd'hui, vous aurez reçu chez nous, vous avez d'autres choses importantes à faire, importantes à tes yeux. Cette semaine, je disais une phrase que Luther disait. Luther disait que des gens vont négliger leur vie de prière parce qu'ils sont trop occupés. Lui, il disait qu'une heure en prière fait en sorte que Dieu te donne d'être plus productif que si tu essaies de faire beaucoup de travail, mais tu n'as pas prié. Lui, il dit que si tu as pris sur ton temps une heure pour prier le Seigneur, ton temps, les choses que tu as à faire vont être plus faciles à faire. Pourquoi? Parce que tu es en relation avec le Seigneur. Le Seigneur, il l'a vu, il va permettre que les petites choses que tu as à faire, normalement, tu devrais suer comme un bon, il va faire en sorte que, ah, non, ça, ça va bien aujourd'hui. Ça, on peut oublier ça. On devrait pas. Et la troisième, c'est que tout notre être, on l'a vu tantôt dans le verset, corps et âme, se devrait de contribuer à glorifier notre grand Dieu, comme on a vu tantôt dans 1 Corinthiens 6, verset 20. « Car vous avez été rachetés à un grand prix. » Si on comprenait ce que ça veut dire, la souffrance que le Seigneur a dû subir comme châtiment à notre place, quand ça dit que c'est un grand prix, ça lui a coûté cher. Très cher. Infiniment cher. Parce que l'enfer, c'était pour l'éternité. Il a subi à notre place. On a été rachetés à grand prix et il nous dit comme conclusion dans 1 Corinthiens 6, 20, « Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. » Parce que bien souvent, on est porté à penser, « Oh, mon corps, c'est à moi, ça. » Non, c'est pas toi. Tu es un enfant de Dieu, tu as été racheté, le Seigneur a payé un prix tellement élevé pour s'approprier de ton corps et de ton âme, que maintenant, le réflexe que tu devrais avoir, c'est de toutes tes pensées, toutes tes actions, tout ton corps, la manière de le traiter, tout. On ne se rend pas compte. Je suis convaincu qu'on est tous des, comment je dirais bien ça, des inconscients jusqu'à un certain niveau. Parce qu'on a besoin de prendre conscience que notre corps et notre âme ne nous appartiennent pas et qu'on se devrait les maintenir au plus haut niveau possible pour le glorifier. C'est ça que ça dit. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Pourquoi je dois faire, je dois en prendre soin autant la pensée que le corps? C'est parce que ça ne m'appartient pas. Et tout doit être, comme on dit, clean. Tout doit être hyper. On devrait avoir un corps en pleine forme. Ce n'est pas notre cas tout le monde, moi le premier. Mais il reste que ce n'est pas à cause que je ne le fais pas ou que je le fais mal que ce n'est pas quand même le devoir que je devrais avoir envers Dieu. Est-ce que je suis vraiment pleinement conscient que mon corps est le temple du Saint-Esprit et que mon corps ni mon esprit ne m'appartiennent, mais qu'ils appartiennent à Dieu et que cela m'impose des façons d'agir. Alors que notre grand Dieu nous donne de mettre en pratique ces choses dans nos vies par sa grâce et pour sa gloire. Amen. Amen.